L'émission Venez à Jésus vous est présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
Bonjour à tous, je suis Raphaël Mambou, que Jésus vous bénisse, qui que vous soyez, où que vous soyez. Le nom de cette émission est Venez à Jésus, c'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu pour partager quelques versets bibliques sur le thème, la parabole du Samaritain. Et nous avons toujours avec nous Jonathan Junior Mambou, bonjour frère.
Bonjour et bonjour à vous qui venez de nous rejoindre.
Avant d'aller plus loin, Jonathan, j'aimerais t'inviter à baisser la tête dans la prière pour dédier le reste des 30 minutes entre les mains du Seigneur. Prions.
Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ces instants que tu nous donnes. Oui Seigneur, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui le fais pour nous. Seigneur, laisse que Seigneur, ces instants soient des temps bénis, des temps de visitation où tu vas nous amener à tourner nos regards vers toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
Amen. Luc 10, verset 30. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit « Aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Jonathan, qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que le Seigneur t'a mis à cœur pour, au sujet de cette parabole?
Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. L'huile et du vin. L'huile, c'est l'image de l'Esprit des dieux. Le vin fait allusion au sang de Jésus. Ce sont les éléments que le Seigneur utilise pour ramener celui qui était descendu vers lui. Il envoie son Esprit, l'huile, qui vient convaincre l'homme du jugement, lui convaincre du péché, l'amener à abandonner cet appétit lié au mal et l'amener à retourner vers le Seigneur. C'est ce que le Seigneur fait lorsqu'il rencontre un pécheur. Nous étions pécheurs. Lorsque un chrétien rétrograde, le Seigneur lui envoie son esprit. L'Esprit de Dieu amène la conviction et amène l'homme à abandonner le péché, à se repentir et à se convertir et ainsi continuer sa vie avec Jésus tout en gardant cette merveilleuse communion que Adam et Ève avaient perdue lorsqu'ils ont laissé la parole des dieux, lorsqu'ils ont désobéi dans le jardin d'Éden. L'huile nous aide à être utilisée puissamment par Dieu, c'est-à-dire l'Esprit des dieux. Ceci me fait penser à des hommes comme Étienne. C'était un diacre. Ce n'était pas un apôtre à l'époque, un simple diacre dans Actes chapitre 6. Le verset 5 nous dit « Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. » Le verset 8 dit « Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. » Lorsque nous restons à Jérusalem, l'Esprit de Dieu est avec nous. L'Esprit de Dieu nous aide, nous conduit. Mais lorsque nous nous éloignons de Jérusalem, c'est-à-dire lorsque nous désobéissons à la parole, nous attristons l'Esprit, nous l'éteignons. Et c'est ce que le Seigneur ne veut pas. Étienne, c'était un homme que Dieu utilisait puissamment. Par lui, Dieu faisait des miracles extraordinaires aussi, des prodiges. Il mettait l'ennemi dans la confusion. En fait, c'était un des héros. Les chrétiens que nous sommes, scellés de l'Esprit, nous devenons pour le Seigneur de héros pour renverser les forces de l'ennemi, pour renverser les puissances des ténèbres, pour détruire les forces maléfiques, pour débusquer tout ce que l'ennemi cache, tout ce que l'ennemi trame, pour détruire nos membres de famille, pour détruire notre église. Si Dieu veut sauver quelqu'un, il le sauvera par nous. Mais il faut qu'on reste à Jérusalem. Il ne faut pas qu'on descende, parce que quand on descend, en tout cas, on sera des héros d'hier, mais plus des héros d'aujourd'hui. Hein? Un peu comme Samson, c'était un héros que Dieu utilisait. Lorsque l'Esprit le saisissait, il frappait, il tuait les Philistins. Mais le jour où il a décidé de désobéir, parce qu'il avait un appétit lié à la sexualité, si je peux le dire, à la tendance à aimer les femmes étrangères, eh bien, ces femmes l'ont conduit à désobéir jusqu'à se laisser couper les cheveux, chose que Dieu est venu, il a cru qu'il allait s'en tirer, comme il le faisait autrefois, par orgueil. Mais il était surpris, l'Éternel s'était déjà retiré de lui. C'est comme ça que sont beaucoup de héros. Beaucoup de héros. Ils sont là, héros, mais le Seigneur s'est déjà retiré d'eux. Ceci me fait penser à ces deux autres héros que nous allons lire dans 2 Samuel chapitre 1, verset 25 et verset 21. Mais on peut lire tout le chapitre où on parle de deux héros qui également sont tombés au combat. Et David a pleuré pour ces deux héros. Pourquoi il a pleuré? Vous allez voir ces mots qui reviennent, hein, tu vas le voir. On est dans 2 Samuel, chapitre 1er, nous lisons le verset 18. David chante un cantique qu'on appelle le cantique de l'arc. Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan son fils. Verset 18. Et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Regardez cette phrase qui reviendra aussi un peu plus bas. Comment des héros sont-ils tombés? C'était ça la question de David. Pour David, Saül et Jonathan, c'était des héros. Mais il se pose la question, comment des héros sont-ils tombés? C'est comme beaucoup de chrétiens, ils sont des héros parce qu'ils ont celui qui est le grand héros, Jésus de Nazareth. Mais comment ces grands héros qui ont prêché, qui ont gagné telle personne à Christ, qui ont prié telle personne s'est délivrée de ses esprits, qui ont été utilisés puissamment par Dieu, sont-ils tombés? Il s'étonnait, mais comment des héros sont-ils tombés? Le verset 20. Ne l'annoncez point dans Gath, n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles de Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Ici, c'est l'image des ténèbres. Lorsque un héros tombe, c'est la joie des démons, c'est la joie des hommes des ténèbres, des esprits méchants. Ils sont contents parce que celui qui les maltraitait est tombé. C'était vraiment ce qui s'est fait au temps de Samson. Quand on a traité Samson, les Philistins étaient contents. Ils se sont précipités pour lui crever les yeux. C'était une joie. Rappelons-nous du jour où il a accepté de mourir avec les Philistins. On l'a amené pour se moquer de lui, parce que pour eux c'était une grande joie. En nous détenant la personne qui nous a fait souffrir. Il dit, ne le dites pas à nos ennemis, parce qu'ils vont se réjouir, parce que les héros sont tombés. Le verset 21. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes. Car là ont été jetés les boucliers des héros, le bouclier de Saül. Regardez maintenant la réponse. L'huile a cessé de les oindre. Donc, en fait, cette question dans laquelle David se posait, disant « Comment des héros sont-ils tombés ?» La réponse se trouve là. L'huile a cessé de les oindre. Quand l'huile cesse de oindre un héros, qu'il le veuille ou non, il va tomber.
Il finit par tomber.
Et étaient jetés les boucliers des héros. C'est-à-dire, le bouclier de Saül et le bouclier de Jonathan sont tombés. Le bouclier, c'est quoi pour nous? C'est la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est la parole. Parce que la Bible dit quoi?
La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ ou la parole de Dieu.
Or, Christ, c'est la parole. La parole faite chair. quand tu descends, c'est-à-dire tu ne seras plus avec la parole, parce que tu as abandonné la parole. Il dit, c'est là qu'ont été abandonnés, jetés les boucliers des héros. Les boucliers de beaucoup de chrétiens sont jetés loin d'eux. Pourquoi? L'huile a cessé de le oindre. Nous sommes des héros, veillons, prions, demandons la grâce de Dieu, et lorsque nous tombons, relevons-nous pour que l'huile continue à nous oindre. Devant, je lis le verset 22. David continue à se lamenter. Devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé. L'épée de Saül n'est retournée point à vide. Voilà. Donc il dit, mais Jonathan, quand il avait son arc, mais il ne reculait pas. Il tuait. Là, il parle du temps où l'huile était en train de loindre.
L'huile était sur lui.
Oui. Saül avec son épée, mais il tuait. Hein? Le verset 23. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles. Ils étaient plus forts que les lions. C'est comme ça qu'on parle aussi de ceux qui étaient. Ils étaient. Ah, cet homme-là était un grand serviteur de Dieu.
Toujours dans le...
Comment formidable quand il prêchait. Mais comment il est tombé dans cette histoire? Comment il était? Il était... Regardez le verset 24. « Fille d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait magnifiquement des cramoisies, qui mettait des ornements d'or sur vos habits. » Ça enseigne beaucoup de choses. Saül, c'est toujours l'image d'un héros. Un héros qui revêt les autres de cramoisies. Le cramoisie donne la couleur rouge. Hein? C'est un peu pour dire qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont des héros. Et quand ils travaillent, il amène les hommes à croire à l'œuvre de la croix. C'est-à-dire à croire au sang et à demander pardon. C'est-à-dire, ils sont beaucoup. Ah, cet homme-là, quand il prêchait, ça touchait les cœurs. Et on demandait pardon à Dieu. Mais comment ces héros est tombé?
Tout à fait.
Comment? Il nous revêtait de cramoisies. Il mettait des ornements d'or sur nos habits. Ça veut dire, l'or, c'est aussi l'image de la parole. Parce que l'or de Dieu, c'est la parole. L'or des dieux, ce ne sont pas les voitures, ce n'est même pas les diamants, parce qu'on voit des gens quitter Kinshasa, quitter des pays lointains, pour aller par exemple en Angola, pour acheter des diamants, pour aller prendre des risques. Il y a des ceux qui sont morts à cause de toutes ces réalités. Mais lorsque nous lisons la Bible, par exemple, pour ne pas aller très loin, parce que la Bible parle clairement de ces choses, eh bien la Bible nous présente que la parole, c'est plus que l'or, parce que la véritable est or. C'est la parole. Proverbe chapitre 3, par exemple, le verset 13, pour ceux qui méprisent la parole, pour ceux qui se lamentent, en tout cas moi, frère, tu es chrétien, tu as la parole, c'est plus que l'or. Le verset 13, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. On commence par dire qu'il est heureux.
Heureux.
Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, le gain que la parole procure. Parce que la sagesse des dieux et l'intelligence des dieux, c'est la parole. Notre intelligence, ce n'est pas celle qu'on apprend à l'université. L'université nous donne une intelligence pour que ça nous aide à vivre sur la terre, à transformer les choses de la terre, à fabriquer des ordinateurs pour s'en servir, des habits pour nous revêtir quand il fait froid, à transformer les réalités. Jamais l'homme a entré dans le royaume des dieux. La sagesse de l'homme aide l'homme à vivre sur la terre, à savoir que dans la vie, il faut respecter par exemple les adultes, il faut faire ceci, il ne faut pas jouer avec le feu, ça c'est la sagesse de la terre. Mais cette sagesse n'amènera jamais l'homme dans le royaume des dieux. La sagesse des dieux et l'intelligence des dieux, elle est celle qui est décrite dans Deutéronome chapitre 4, verset 6. C'est-à-dire, la sagesse des dieux, c'est la parole des dieux. L'intelligence des dieux, c'est la parole des dieux. Verset 14, Proverbe 3, verset 14. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire
que l'or.
Vaut mieux que l'or. Je dirais même, vaut mieux que le diamant,
vaut mieux que le coltan,
hein, vaut mieux que, le cuivre,
l'uranium, les diamants.
Voilà. La parole,
le pétrole.
Voilà. La parole, c'est plus que toutes ces choses. Regardez le verset 15, Proverbe 3, 15. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Qu'est-ce qui peut être un objet de prix? Une voiture peut être un objet de prix.
Une maison.
Voilà. Mais la parole, c'est plus que cela.
Un satellite.
Voilà. Maintenant, on doit faire confiance à quoi? À ce que nous voyons selon les yeux sur la terre, ou à ce que nous ne voyons pas, mais qui est décrit dans la parole? Nous devons croire à ce qui est écrit dans la parole, même si on ne veut se repentir. Ce qu'il dit est vrai. Ce qu'il dit s'accomplit toujours.
Tout à fait.
Malheur à ceux qui méprisent la parole de Dieu. Et c'est ça, ce que on disait pour Saoul. Ça, c'était une parenthèse. Saoul, lorsqu'il travaillait, il revêtait les autres d'or. Parce que quand ils allaient dans la bataille, ils tuaient l'ennemi, ils récupéraient les richesses, et les richesses venaient. Le peuple d'Israël récupérait les richesses que l'ennemi avait laissées tomber, l'or et tout ça. Un peu pour dire, nous également, par exemple, quand on parle là, on est en train de distribuer l'or. On est en train de revêtir beaucoup de gens de l'or. Nous aussi, lorsque nous nous mettons assis, nous écoutons également les autres hommes de Dieu qui prêchent.
Nous recevons plus que de l'or.
Et ces gens se lamentent. David se lamente. Il dit, fille d'Israël, pleurez sur Saoul. Qui vous revêtait magnifiquement de cramoisi? Mais pourquoi ils sont tombés? Parce que l'huile a cessé de les oindre. Ils ont laissé Jérusalem, ils sont descendus vers Jéricho. Et David s'exclame, il pose encore la même question, verset 25. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Donc il n'en revient pas. Mais eux, ce sont des héros, ils ne pouvaient pas tomber. Une façon de dire, parce que quelqu'un veut dire, mais non, ce sont des hommes, ils pouvaient tomber. Mais pour Dieu, si nous restons à Jérusalem, nous ne tombons pas. Nous restons dans sa présence. Nous ne tombons pas. Jésus a dit ceci. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps.
Et
ils sont incapables de tuer l'âme. Mais craignez plutôt celui qui peut tuer.
Dans le feu éternel.
C'est-à-dire, on peut vous tuer parce que vous vous attachez à Dieu. Ils ont tué le corps. Mais votre vie est toujours entre les mains de Dieu. Comme l'homme de Dieu, Paul, a dit. Nos vies sont cachées en Christ, en Dieu. Paul a encore dit. Si Dieu est pour nous,
qui sera contre nous?
Personne. Il l'a décrit en allant plus loin. Ni les anges, ni la maladie, ni la faim, ni quoi que ce soit. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? La réponse, c'est au verset 21. L'huile a cessé de les oindre. Ça, c'était au verset 25. Mais regardez encore au verset 27. Mais je lis le verset 26. Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable au-dessus de l'amour des femmes. C'est-à-dire, il voudrait montrer un peu un Jonathan qui aimait beaucoup l'œuvre de Dieu. On peut, un héros par exemple, prenant l'image d'un homme de Dieu, qui s'est donné beaucoup pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais curieusement, ces mêmes messieurs, il est descendu. Et il pose la question, mais comment des héros sont-ils tombés? Pour la troisième fois. Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues? Beaucoup de héros sont aujourd'hui comme Saoul, sont aujourd'hui comme Jonathan. Leurs armes se sont perdues. C'est quoi ces armes que nous perdons lorsque nous quittons Jérusalem pour descendre Jéricho? Ce sont des armes décrites dans Éphésiens 6. Il y a plusieurs armes. Regardez par exemple le verset 14. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Celui qui quitte Jérusalem pour Jéricho, il ne marchera plus dans la vérité. Il perd l'arme qu'on appelle la vérité. Revêtez la cuirasse de la justice. Celui qui quitte Jérusalem, lorsqu'il descend vers Jéricho, il ne marche plus dans la justice. Il fait ce qui est abominable devant Dieu. Ça, c'est la deuxième arme que nous perdons. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Celui qui quitte Jérusalem en descendant vers Jéricho se remplit d'une culpabilité telle que il n'a même plus le courage de prêcher.
Tout à fait.
Il se dit, ah, je vais dire quoi? Et ça m'étonne des fois de voir une personne qui vit dans les ténèbres, dans le plein péché, mais qui prêche quand même facilement.
Des courageux.
Alors je dis, mais ça c'est un audacieux, un courageux. Il oublie que ce qu'il prêche.
Le condamne.
Oui, il se sent à l'aise. Ça devrait te mettre mal à l'aise. Eh bien, celui qui quitte Jérusalem, qui descend Jéricho, à cause du fait que l'huile cesse de les oindre, il perd le zèle. Il n'a plus le zèle. Nous devons prêcher avec zèle. Il prêche avec des condamnations. Il prêche, mais quand il dit un mot, il sait que ce que j'ai dit, moi, je l'ai mis pour en pratique. C'est comme si ça le taquinait au plus profond. Ça, c'est une arme qu'on perd. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi. C'est ce que Saoul et Jonathan ont perdu. Ils ont perdu la foi, la parole. Ils n'ont plus confiance à la parole. Ils marchent, est-ce que Dieu me protège encore? En tout cas, à cause de ce que j'ai fait, je vois que Dieu ne me protège plus. Oui, c'est un verset biblique, mais je commence à douter. Donc, il n'a plus la foi. Il n'a plus la parole avec lui. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est-à-dire, une personne pareille, mon frère, qui a perdu le bouclier de la foi. Mais comment il va éteindre encore les traits enflammés du malin? C'est impossible.
Il va plutôt les recevoir.
Tous les se suicider. Il peut même s'emporter par les soucis. Il peut même se dire, je vais m'enivrer parce que c'est fini. Hein, des pensées mauvaises peuvent l'envahir. Jusqu'à dire, par exemple, bon, je vais, comme j'ai rencontré un homme de Dieu qui me disait, en tout cas, je vais me livrer totalement au péché. Ça, ce sont les traits qui l'ont envahi pour lui dire, va, fais seulement ça, c'est fini déjà.
Il n'y a plus d'espoir pour toi.
Il n'y a plus d'espoir pour toi. Tu n'as plus la foi. Comme tu n'as plus la foi, tu vas te laisser. Mais Dieu veut que nous ayons cette arme. Mais qui les perdent? Ce sont ceux qui quittent Jérusalem et qui descendent vers Jéricho. Une autre arme. Prenez aussi le casque du salut. Le salut. Lorsqu'on est en Christ, nous avons un casque. Nous avons une assurance qui nous dit, le Seigneur, quand il reviendra, il va me prendre. Mais quand on quitte Jérusalem et on descend vers Jéricho, on s'est dit, certainement, quand le Seigneur va venir, il ne va pas me prendre. Ça, c'est sûr. Il ne va pas me prendre. Le casque du salut. On se culpabilise. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu.
La parole de Dieu.
La parole, c'est une épée. Lorsque nous la récitons, elle va, elle perce, elle détruit, elle chasse les forces de l'ennemi. Elle anéantit tout. Regardez. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. L'Esprit pousse le chrétien à prier, mais quand l'huile cesse de te oindre, c'est fini.
Tout à fait.
Il veut que l'huile puisse pousser l'homme de Dieu à retourner vers le Seigneur, d'abord pour dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché, je me suis mal comporté, je conduis ma vie seul. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai été têtu. Je tombe toujours devant ce problème. Je ne suis rien sans toi. Sans toi, je ne peux rien. D'ailleurs, regarde, je te confesse mes péchés. Voilà ce que j'ai fait. J'ai volé, j'ai menti. Mes yeux ont regardé du n'importe quoi. Et pourtant, je savais bien, c'était pas bien. Plus je regardais, j'ai commencé à ressentir l'appétit. Je continuais, j'ai consommé le péché. En fait, ce que Dieu attend, c'est ça. Que le chrétien s'ouvre devant Dieu et qu'il dise clairement, voilà, et c'est l'Esprit qui nous aide, qui nous amène à cet état, pour que nous puissions nous approcher à Dieu par la prière, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Quand il m'arrivait de désobéir à Dieu, je disais toujours à Dieu, Seigneur, je n'ai pas de choix, je vais retourner seulement chez toi. Toi seul, tu peux me sauver. Je retourne seulement chez toi, Seigneur. Pardonne-moi. Je veux seulement que tu me sauves. Parce qu'en tout cas, je ne peux pas reculer. Parce que là derrière, ce n'est pas ma vie. Ma vie, c'est auprès de toi. Donc, c'est ce que nous pouvons dire aux bien-aimés. Lorsque quelqu'un quitte Jérusalem pour Jéricho, il perd la force même de prier. Veillez à cela avec une entière persévérance. La persévérance, c'est quelque chose que les chrétiens perdent aussi. À cause du fait qu'ils ont quitté Jérusalem et qu'ils descendent vers Jéricho. Regardons encore notre point. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. L'hardiesse. Les chrétiens perdent l'hardiesse à cause du fait qu'ils choisissent de quitter Jérusalem pour Jéricho. Ainsi, si je dois répondre à la question de David, comme il l'a dit, quand il pose, comment des héros sont-ils tombés?
L'huile a cessé de les oindre.
C'est ça la réponse.
Est-ce que l'huile a cessé de couler dans votre vie, mon frère? Est-ce que l'huile a cessé de couler dans votre vie, ma sœur? Nous ne sommes pas là pour vous condamner, mais nous sommes là pour vous réveiller. Nous sommes là pour apporter le message qui dit que si l'huile a cessé, comme l'a dit le frère Jonathan, revenez à Dieu, car c'est le seul.
Amen.
C'est le seul qui puisse vous restaurer. Il n'y en a pas un autre. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prêtre, ce n'est pas l'évêque, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le pape, l'archibipape. Non, ce n'est que Jésus. Tant qu'il y aura de l'huile sur vous, il n'y aura pas de problème. Mais si l'huile a cessé, vous allez recevoir ces traits enflammés de l'ennemi. Il faut que l'huile continue. Et si vous voulez reconnaître votre péché devant Dieu, demandez pardon à Dieu. C'est très simple. Baissez la tête dans la prière et répétez ces simples mots après moi. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai entendu ton message. L'huile a cessé de couler dans ma vie. Et je te demande pardon, parce que je suis fautif dans cet échec. Père, je viens à toi parce que je n'ai pas d'autre choix. Je n'ai pas un autre sauveur, je n'ai pas un autre rédempteur que toi. J'accepte Jésus-Christ dans ma vie comme sauveur et Seigneur personnel et je prends un nouveau départ avec Jésus-Christ tous les jours de ma vie et dans tous les domaines de ma vie. Merci pour ton pardon. Merci pour ce message. Bénis ces serviteurs qui nous ont donné ce message. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Si vous avez fait cette prière, croyez que par la foi, Dieu vous a entendu. Je suis Raphaël Mambou. Le nom de cette émission est Venez à Jésus. Nous nous retrouvons la fois prochaine, toujours sur le même thème, la parabole du Samaritain, toujours avec Jonathan Junior Mambou. Que Jésus continue de vous bénir, que Jésus continue de vous garder. À la fois prochaine.
À la fois prochaine et que l'huile continue à oindre votre vie et que vous demeuriez à Jérusalem.
Amen.
Amen.
L'émission « Venez à Jésus » vous a été présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Pour nous joindre, appelez-nous au plus 243 819 910 910 ou visitez notre site internet www.jesuspourtous.org.